faire de grandes théories de la révolution, mais je pense que c'est un problème qu'on peut retrouver dans beaucoup de révolutions. Voilà, ça c'est un point sur les ouvriers. Je voulais vraiment parler d'une autre question, parce que tu as employé, Daniel, au début de l'émission, tu as employé deux mots, sourire et réfléchir. Et ça me semble essentiel de reprendre ces mots pour décrire ce qui s'est passé en Égypte. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on pouvait voir le soir de la chute de Moubarak sur la place Tahrir au centre du Caire ? Effectivement, des gens qui souriaient et des gens qui réfléchissaient, des gens qui discutaient. Et ça me semble essentiel de le dire, parce que quand je suis rentré en France, les chroniqueurs faisaient part de leur crainte par rapport aux frères musulmans. C'est-à-dire qu'on regardait ces révolutions, nous, peuple européen, imbus de démocratie et qui pensons tout savoir sur la démocratie, on les regardait de haut en pensant que ces gens-là n'ont absolument rien à nous apprendre sur ce qu'est la démocratie. Or, je suis persuadé que ce que nous avons vu là, et surtout en Égypte, nous apprend énormément de choses sur la démocratie et a des choses à nous dire. Et ces choses qu'elle a à nous dire, ce sont sourire, réfléchir et exercer une joie démocratique. Donc le soir sur la place Tahrir, le soir de la chute de Moubarak, on voyait ces groupes se réunir, des gens discuter à partir de rien, des gens qui ne se connaissaient pas, des gens sourire. Dans le métro, les jours qui suivaient la chute de Moubarak, des conversations naissaient entre les gens, mais des conversations entre des gens qui ne se connaissent pas. Il y a une libération de la parole et on sentait une joie, un bonheur de participer à cette politique. Donc voilà, je voulais juste transmettre cette joie aujourd'hui.
Alors ce qui se passe, Gilbert Achkar, là on arrive dans notre sujet, c'est que la Tunisie n'est pas l'Égypte. L'Égypte est un élément très important de toute la question du Proche-Orient, du conflit israélo-palestinien, du jeu que jouent les États-Unis traditionnellement dans cette région, des alliances avec l'Iran, etc. Alors, qu'est-ce qui est en train de bouger ? Qu'est-ce qui se passe ? Et quel est, Halimi a commencé dès le début par évoquer le rôle des États-Unis. On fait quand même un petit peu partie des gens qui pensent qu'il y a toujours un complot américain derrière et que les Américains tirent les ficelles. Est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que vous pouvez nous brosser un peu un paysage de cette situation mouvante ?
Pour les États-Unis, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un mouvement qui les a surpris dans son ampleur, comme il a surpris tout le monde. Hein. Ils n'étaient pas mieux renseignés que quiconque sur ce terrain-là. Bon, ils pouvaient s'attendre à ce qu'il y ait des tensions sociales, y compris des explosions sociales. Bon, ce qu'ont révélé les câbles de Wikileaks sur la façon dont le régime Moubarak, pour prendre celui-ci, était perçu par les diplomates américains, montre bien qu'ils savaient à quoi ils avaient affaire. Ce qui explique aussi la pression maintenue au fil des ans, avec des hauts et des bas, pour des réformes dans le régime, pour une certaine démocratisation dans le régime. Une pression qui a atteint un moment fort en 2005, lorsque l'administration Bush était en mal de justification pour son aventure irakienne, après le fait que les armes de destruction massive se soient avérées un mensonge pur et simple. Et cette pression a permis une certaine ouverture de la part du régime, qui a profité essentiellement aux frères musulmans comme force structurée de l'opposition, ce qui était également un moyen pour le régime Moubarak de faire peur aux États-Unis. Donc il y a cette ambiguïté d'États-Unis qui sont conscients du fait que le caractère despotique de ces gouvernements à terme est un danger, y compris pour les intérêts des États-Unis, donc pour la stabilité de la région. Mais en même temps, ils sont face à ce paradoxe pour eux. J'emprunte le terme à Huntington, là, l'auteur du choc des civilisations, de ce qu'appelle le paradoxe de la démocratie, c'est-à-dire des élections véritablement démocratiques dans des pays où l'hostilité à la politique des États-Unis est très forte, eh bien, ne peuvent que produire des gouvernements hostiles aux intérêts américains. Donc il y a ce dilemme. Et Washington a dû naviguer dans cette situation-là, dans cette contradiction. Bon, c'était d'abord le souci que l'armée n'intervienne pas dans la répression. Ce même phénomène a eu lieu en Tunisie, c'est-à-dire préserver un élément central de l'appareil d'État. Le préserver pourquoi ? Parce que la peur, la crainte était là face à de tels mouvements qu'une intervention de l'armée dans la répression aboutisse à des mutineries, quoi, à des refus d'obéissance de la part des soldats, d'où cette crainte. Donc une armée qui joue le jeu d'une certaine neutralité, en Tunisie, l'armée a joué un rôle décisif dans le fait de précipiter le départ de Ben Ali. Et en Égypte, bon, c'est l'armée qui prend le relais, enfin, de Moubarak. Alors après, il sera difficile de savoir comment ça s'est passé exactement avant qu'il y ait des témoignages. Mais une chose est certaine, c'est que Washington a suivi de près cette transition. Depuis le début du mouvement, on voit dans les communiqués de Washington la formule « transition dans l'ordre » qui revient de manière incessante. Donc, d'une part, la conscience de la nécessité d'une transition. D'autre part, la volonté que ça se fasse dans l'ordre, c'est-à-dire en préservant ce qui est pour eux l'essentiel, le statut, le rôle, le contrôle des militaires dans le pays.